Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. La CNDH a, dans le cadre de son mandat, déployé une mission d'observation pour surveiller le procès pénal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. À cette occasion, son président Paul Sampou réitère sa recommandation faite au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en RDC. Sachez que Paul Sampou est l'invité de ce journal. Plus de 4000 civils bénéficient de la protection des casques bleus de la MONUSCO à Jina, dans le territoire de Djougou. Cette action fait suite aux affrontements opposant les FARDC aux éléments du groupe armé Convention pour la Libération Populaire, CRP. Une patrouille de la MONUSCO avait été immédiatement déployée pour sécuriser les populations déplacées. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation pour surveiller les procès pénals de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Celui-ci, vous le savez, vient d'être condamné à mort par la Haute Cour militaire pour plusieurs infractions, dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel. À ce sujet, le président de la CNDH, Paul Sampou, réitère sa recommandation faite au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en République démocratique du Congo. Il est au micro de Jeff Ngoï Moulonda.
Nous appelons le pouvoir public à aller progressivement vers l'abolition de la peine de mort, bien sûr, en harmonie avec les standards internationaux de protection des droits humains. Cette réponse est conforme aux recommandations que la CNDH avait faites au gouvernement après la levée du moratoire sur la peine capitale. Et là donc, notre organisation a en outre recommandé au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Aussi, une autre recommandation apportée sur la révision des codes pénaux ordinaires et militaires congolais.
Pendant ces temps, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ce jeudi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de la plénière à la Chambre basse du Parlement, la députée Daïda Moleka, élue de Lukunga à Kinshasa, a même plaidé pour l'extension de cette mesure exceptionnelle au Sud Kivu au regard, selon elle, de l'activisme accru des groupes armés et de la rébellion du M23. Une proposition que rejettent certains élus, notamment du Nord Kivu, mettant en cause l'efficacité de l'état des sièges dans les deux provinces concernées, tout en promettant de transmettre au gouvernement cette suggestion d'étendre l'état des sièges au Sud Kivu. Le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbay, exhorte les députés à développer plus de stratégies pour appuyer les forces armées de la RDC pendant cette période de crise sécuritaire. D'une assemblée à une autre, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemin Shabani Luko Biango, demandent aux députés provinciaux du Congo central, membres du bureau et pétitionnaires, de rejoindre la capitale pour une consultation urgente. Cet appel intervient sous un climat politique tendue partant du mardi 30 septembre où 5 pétitions ont été déposées contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central lors de la rentrée parlementaire de la session de septembre. Par la suite, l'honorable Mantezolo a saisi la Cour constitutionnelle le mercredi 1er septembre, ajoutant un nouveau rebondissement judiciaire à cette crise institutionnelle. Entre pétitions, recours en justice et convocation à Kinshasa, le dossier du Congo central prend une ampleur nationale. Plus de 4000 civils bénéficient de la protection des casques bleus de la MONUSCO à Jina, dans le territoire de Djougou. C'était le 27 et le 28 septembre dernier, à 40 km au nord de Bounia. Cette action fait suite aux affrontements dans le village voisin de Niamapala, opposant d'abord les FARDC aux éléments du groupe armé Convention pour la libération populaire SRP, puis CODECO SRP. Une patrouille de la MONUSCO avait été immédiatement déployée pour sécuriser les populations déplacées. Les explications du major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, au micro de Martial Papimoukeba.
Alors que les casques bleus sécurisaient la zone, de nouveaux tirs ont éclaté à Tchatchouba, où des éléments de CODECO ont intercepté les CRP, déclenchant une confrontation violente. La patrouille a été contrainte de se redéployer pour assurer la protection des civils. En réponse à l'escalade, des patrouilles supplémentaires et robustes ont été envoyées pour sécuriser les axes menacés. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de civils. Près de 4000 personnes, dont environ 1950 femmes et 700 enfants, se sont regroupés autour de la base de la MONUSCO à Jina. Le contingent népalais est intervenu de manière décisive. Une patrouille équipée de véhicules blindés a sécurisé les abords de la base, tandis que d'autres patrouilles mobiles ont contrôlé les axes sensibles. Les casques bleus ont également évacué 3 blessés vers l'hôpital de Jina, une fille de 13 ans et 2 hommes, avant leur transfert par hélicoptère médicalisé vers Bounia pour une prise en charge spécialisée. Malgré la poursuite des échanges de tirs, jusqu'au lendemain matin, la présence déterminée des casques bleus a permis de sauver des vies et de protéger efficacement les populations civiles.
Restons dans la région pour vous signaler que 120 militaires des FARDC bénéficient depuis le 29 septembre à Bounia d'une formation intensive dans le cadre du soutien de la MONUSCO au renforcement de leurs capacités opérationnelles. Le programme couvre des domaines essentiels tels que la transmission, l'utilisation des drones, la navigation GPS et les systèmes informatiques, des compétences indispensables pour l'efficacité militaire moderne et la maîtrise du terrain. Cette formation, qui se poursuivra jusqu'au 10 octobre, vise à renforcer la maîtrise technique, la coordination et la préparation opérationnelle des militaires, tant pour les missions nationales que pour les missions multinationales. Dans un autre registre, un lot de 96 Jeep Toyota Land Cruiser 4x4 remis officiellement ce jeudi à Kinshasa aux différents services de sécurité par le gouvernement congolais à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Sur ces lots, 70 véhicules sont attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces de l'Omami et du Sankuru. Objectif, améliorer la mobilité et l'efficacité de ces services dans la sécurisation de la population et de ses biens. Grâce à Mzati Masanzi.
Outre ces véhicules, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a remis un échantillon d'équipement en armement à la police. Il affirme que cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés. Les autres bénéficiaires de ce matériel sont notamment l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations ainsi que le Conseil national de la cyberdéfense. Jacquemain Chabani appelle ainsi à un usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains.
Vous voyez le nombre de véhicules, ce qui fait que ça aura un impact significatif sur le service rendu à nos populations. Et pour nous, c'est une journée de satisfaction, mais qui ne va pas nous limiter à cela. Nous allons encore continuer davantage pour renforcer les capacités de nos services, tout en espérant que vous allez en faire bon usage. Veuillez nous encourager pour faire davantage.
Cette remise des véhicules, qui concerne aussi la province de l'Omami, donne lieu de rappeler qu'il y a quelques jours, un député provincial élu de Luilou a dénoncé la confiscation par le gouvernement provincial des véhicules de l'État alloués au territoire, affirmant que les administrateurs utilisent des vélos pour inspecter leur territoire. Des allégations rejetées par le gouverneur des provinces.
La ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, fait face à une pression démographique croissante. Selon les forces vives locales, cette augmentation rapide de la population ne s'accompagne pas d'un développement proportionnel du secteur de l'habitat. Ce constat est dressé à l'occasion de la Journée internationale de l'habitat. Le porte-parole de la nouvelle dynamique de la société civile, Wilfried Abamungu, appelle les autorités à envisager un élargissement de la ville vers d'autres zones. Selon lui, cette extension permet permettrait de limiter la récurrence des incendies et de renforcer la lutte contre l'insalubrité. Il s'exprime au micro de Ronelli Ntibonera.
Nous plaidons pour l'élargissement de la ville de Bukavu vers les zones promoteuses comme Nyantende, Mugogo, Mudaka et Kabare afin de répondre à la pression démographique croissante et d'améliorer les conditions de vie des habitants. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour interdire les morcellements de parcelles en segments de 5 mètres de longueur et 5 mètres de largeur dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, car cela favorise les incendies à répétition qui mettent en péril la sécurité des habitants. Nous encourageons également les résidents de quartiers périphériques à privilégier la construction de maisons en matériaux durables pour contribuer à un habitat résilient et pérenne.
D'après les perspectives mondiales d'urbanisation des Nations Unies, la population actuelle de Bukavu est estimée à 1 369 430 habitants contre 16 296 en 1950. La ville a enregistré une croissance de 60 960 personnes au cours de la dernière année, soit une augmentation annuelle de 4,66%. Ces données incluent l'agglomération urbaine de Bukavu ainsi que ses zones suburbaines. Deuxième numéro de la série des reportages sur la société textile de Kisangani Sotexki en sigle. Après 3 ans d'arrêt de fonctionnement de cette usine, les conséquences sont inéluctables. Quelles sont ces conséquences, Jacques Moukonkole?
La première conséquence est bien entendu l'arrêt de la production, celle qui aurait dû générer des devises nécessaires à l'économie aussi bien locale que nationale. Alors qu'à sa création, la production initiale était estimée à 1 500 000 mètres de tissus linéaires, cette production a baissé progressivement au cours des années jusqu'à 60 000 mètres avant la fermeture en juillet 2022. Parmi les causes, diverses difficultés dues notamment à la détérioration du tissu économique, à la suite des pillages, des rébellions et le manque de financement. Cette improductivité entraîne un manque à gagner pour la Sotexki et les gouvernements, aussi bien local que central. Ce manque à gagner profite aux usines textiles asiatiques, dont les produits inondent le marché local. Autre difficulté, l'impossibilité de répondre à certaines charges d'exploitation ou encore des renouvellements de matériel. Par ailleurs, la majorité des travailleurs, 300 actuellement, est renvoyée en congé technique. Autrefois, pendant son apogée, la Sotexki comptait 2500 employés et l'usine tournait avec 3 équipes, 24 heures sur 24. Ces 3 ans d'arrêt fatidique ont occasionné une déstabilisation sociale d'employés, 38 mois de salaire non payé. Entre-temps, des centaines d'autres ne peuvent aller en retraite, alors que le personnel doit être rajeuni. La relance de la Gécamine de la province orientale de Mambré s'avère donc impérieuse. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Un souvenir inoubliable dans les mémoires de population de Goma. Il s'agit du naufrage du bateau MV Merdi au nord Kivu. Les habitants de la ville de Goma se rappellent encore ce drame survenu le 3 octobre 2024 sur le lac Kivu. Un accident qui avait coûté la vie à plusieurs personnes et fait plusieurs disparus ainsi que des pertes en marchandises. L'épave du bateau est toujours au fond des eaux à quelques encablures du port de Kituku au quartier Kieshero. Une année après, il semble qu'aucune leçon n'a été tirée de cet accident puisque les mêmes risques persistent. C'est aussi l'avis d'Alex Kaluira, coordonnateur de la structure dénommée Unité de surveillance et de sauvetage qui forme les sauveteurs à Goma. Suivons un extrait de ses propos.
Ce jour-là, le bateau Merdi a emporté avec lui des dizaines de vies innocentes, des familles endeuillées, des corps jamais retrouvés, des survivants traumatisés. Ce n'était pas un simple accident, c'était un symbole du laxisme en matière de sécurité aquatique, du manque d'encadrement et de formation. Donc, un an plus tard, rien n'a vraiment changé. Les mêmes risques persistent. Surcharge, absence de gilets de sauvetage, embarcation non inspectée et absence de sauveteurs formés. Les silences et l'oubli ne doivent pas devenir notre norme. Face à cela, l'organisation que je coordonne, dénommée Unité nationale de surveillance et de sauvetage, propose une réponse concrète à travers son projet Nager Sauvé. Ce que nous voulons faire, c'est sensibiliser les communautés riveraines au risque de noyade, former la majorité de la population, les jeunes et les enfants, à la natation et aux gestes des premiers secours. Donc à travers la mémoire de ces victimes du bateau Merdi, mais également d'autres victimes sur les fleuves, sur d'autres lacs, nous appelons les décideurs, les partenaires et les citoyens à agir pour qu'aucune autre embarcation ne devienne un cercueil flottant.
Actualité internationale.
Réunis en congrès ce vendredi 3 octobre, les députés et sénateurs tchadiens ont très majoritairement approuvé une révision de la constitution dont la mesure phare réside dans la mise en place d'un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable et à souhait. Initialement prévu le 13 octobre, le vote a été organisé avec une dizaine de jours d'avance.
L'invité.
Dans le cadre de son mandat, la Commission nationale des droits de l'homme a déployé une mission d'observation pour surveiller le procès pénal de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Celui-ci, vous le savez, venait d'être condamné à mort par la haute cour militaire pour plusieurs infractions, dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel. Pour parler de cette procédure, Radio Kapi reçoit le président de la CNDH, Paul Sampo. Il réitère sa recommandation faite au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en RDC. Paul Sampo s'entretient avec Jeff Ngoï Molonda.
Paul Sampo, bonjour.
Bonjour.
Une année et demie après que le gouvernement congolais a levé le moratoire sur la peine de mort, la justice congolaise, en particulier la justice militaire, a déjà prononcé plusieurs condamnations à mort. Et vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'en pensez-vous?
La Commission nationale des droits de l'homme réaffirme sa position de principe, celui du droit à la vie. Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par notre Constitution et par de nombreux instruments internationaux auxquels la RDC est partie prenante. La peine de mort, même lorsqu'elle est prévue par la loi, pose de sérieuses questions éthiques et juridiques. C'est pourquoi la CNDH recommande que, même en cas de condamnation prononcée, la peine capitale ne soit pas exécutée, mais plutôt commuée en peine alternative comme la réclusion à perpétuité. Nous appelons le pouvoir public à aller progressivement vers l'abolition de la peine de mort, bien sûr, en harmonie avec les standards internationaux de protection des droits humains. Cette réponse est conforme aux recommandations que la CNDH avait fait au gouvernement après la levée du moratoire sur la peine capitale. Et là donc, notre organisation a en outre recommandé au gouvernement de ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Aussi, une autre recommandation a porté sur la révision des codes pénaux ordinaires et militaires congolais.
Justement, parmi les condamnés à mort figure désormais l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Est-ce que vous ne craignez pas que cette peine soit un moyen de règlement de comptes contre les opposants, défenseurs des droits humains et autres?
La CNDH, à travers sa mission d'observation judiciaire déployée au cours de ce procès, suit avec attention ce dossier et rappelle que toute personne a droit à un procès équitable, indépendant et impartial. La justice ne doit en aucun cas devenir un outil de règlement de comptes politiques ou personnels. Elle doit demeurer un pilier de l'état de droit. Notre rôle est de veiller à ce que le droit des prévenus, y compris des personnalités politiques de haut rang, soit respecté dans le strict cadre de la loi.
Selon l'observation faite par la CNDH, est-ce que la procédure contre Joseph Kabila a-t-elle été impartiale et équitable?
Sur la forme, il est important de rappeler que le procès s'est tenu par contumace. C'est une procédure prévue par notre droit congolais. Elle est régulière, cette procédure, d'autant plus que le prévenu avait été valablement notifié de la date d'audience.
Il a fait le choix de ne pas se présenter. Cela relève de son droit. C'est lui de comparaître ou de s'abstenir de le faire. Quant au fond, la Commission nationale des droits de l'homme ne saurait vraiment se prononcer à ce stade. Nous devons d'abord prendre connaissance de l'arrêt rendu par la haute cour militaire avant d'émettre une position sur l'impartialité et l'équité de la procédure. La CNDH, en tant qu'institution nationale indépendante, reste attachée au respect des garanties d'un procès juste et équitable, conformément bien sûr à la Constitution et aux instruments internationaux de protection des droits humains. Une analyse plus complète interviendra donc une fois que nous aurons étudié le contenu intégral de la décision de justice et exploité le rapport complet de notre mission d'observation judiciaire. Mais je note que la Constitution de notre pays interdit formellement, aussi bien dans sa motivation, dans son préambule, que dans certaines dispositions telles que l'article 64. Il s'agit bien sûr de la tentative de prise de pouvoir par la force. C'est prohibé par la Constitution de notre pays. La prise ou la conservation du pouvoir par la force, en recourant aux armes, ça c'est interdit. Mais l'État est chargé d'assurer l'ordre, de défendre la souveraineté, de défendre des vies humaines, de protéger la population.
Je vous remercie.
Merci.
C'était notre invité Paul Sampou, le président de la CNDH, qui s'entretenait avec Jeff Ngoïmo Londa, et c'est par là que nous mettons un point final à cette grande édition du Journal du Matin, qui a connu la coordination éditoriale de Jean Gando Kabongo, supervisée par Lévin Mbouingavoubou, Jean-Claude Nsiala Mwanamakengonchwalou, la mise en onde des informations continues sur la radio de la paix, sur toutes nos plateformes numérique ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis.